Bonsoir à tous, nous allons commencer. S'il y a des retardataires, ils nous rejoindront discrètement dans le fond de la salle pour qu'on puisse effectivement, comme le disait Nadège, garder notre temps pour pouvoir découvrir effectivement cette danse coréenne. Et c'est une conférence qui m'a fortement intéressée dans sa préparation puisque je connaissais très peu de choses finalement, si ce n'est des choses très éparses. En la préparant, j'ai découvert des choses que je pouvais relier les unes avec les autres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre nous, en tout cas, lorsque l'on évoque la Corée du Sud, la première chose qui vient en tête ou qui vient à l'esprit, c'est la K-pop, qui est une musique pop produite en Corée du Sud, on va dire, depuis le début des années 90 et qui mêle plusieurs styles musicaux. La pop, l'électro, le R&B, le hip-hop, la dance, entre autres, mais qui surtout propose une identité visuelle et culturelle singulière. Alors, il y a eu un groupe, le groupe CO, Taiji and Boys, qui a été plutôt précurseur, on le considère comme le père de la K-pop, dans l'industrie sud-coréenne. Actuellement, il y a le groupe BTS qui fait beaucoup parler de lui, qui est très influent au niveau international et qui a vendu des millions d'exemplaires de ses albums. Alors cette année, je l'ai choisi parce que cette année, c'est leur grand retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce phénomène, peut-être que ça vous paraît loin de vous, mais c'est leur grand retour après 3 ans d'absence des scènes puisqu'ils étaient à leur service militaire. Et ils produisent à la fois des albums, mais aussi des prestations scéniques, des clips musicaux qui mêlent la musique et la danse. Et une danse qui est parfaite, on va dire, pour être reprise sur les réseaux sociaux. Alors j'ai choisi de vous en montrer un extrait tout de même ce soir pour comprendre un petit peu comment cette danse très actuelle fonctionne. Et on va voir qu'elle n'est peut-être pas si détachée que ça. Finalement des danses, je dirais, plus traditionnelles. Voici un extrait de Dynamite du groupe BTS. Alors vous l'avez vu, c'est un travail d'écriture chorégraphique qui joue sur des formations géométriques, hein, très simples, une frontalité qui est très affirmée et qui répond, vous l'avez compris, aux besoins de la caméra et aux besoins des réseaux sociaux, de l'écran de téléphone portable notamment, une gestuelle qui est très segmentaire et qui se déplace peu dans l'espace. Et puis on a comme principe fondamental d'écriture l'unisson, danser ensemble simultanément sur la musique. Et puis à cela s'ajoute, je vous ai montré un extrait où on le voit, quelques digressions, alors c'est du montage vidéo, mais quelques digressions chorégraphiques où chacun des chanteurs peut exprimer une forme de singularité dans des petites formes de solo. Le tout est mis en scène et on va dire enrobé dans une scénographie, souvent aux couleurs pastel, et dans un univers assez particulier. Les univers, on va dire, soit enfantins, soit fantastiques, sont souvent privilégiés. Donc d'un côté, on a aujourd'hui cette culture pop en pleine expansion, hein, depuis ce tournant du 20e et du 21e siècle, qui est le symbole finalement d'une Corée ancrée dans le monde du divertissement, dans les réseaux sociaux et dans la mondialisation. Mais de l'autre côté, ou d'un autre côté, certaines d'entre vous ont peut-être en tête des images des danses dites traditionnelles, issues d'un patrimoine beaucoup plus ancien, des danses qui sont elles aussi pratiquées en groupe, le plus généralement par des femmes, Et ces danses traditionnelles sont nombreuses et chacune ont des caractéristiques propres. Alors je vais vous en montrer quelques exemples et je vais les mettre soit en images, soit en quelques extraits vidéo. Je vais plutôt utiliser les traductions françaises des termes coréens parce que vous le comprendrez bien, mon coréen est loin d'être même le début de débutant. Alors on a par exemple, je vais lancer la vidéo en même temps en mettant le son peut-être pas trop fort. Voilà, la première danse, peut-être une des plus connues pour nous, c'est la danse des éventails, qui est une danse dansée dans de nombreuses fêtes. Alors là j'ai pris un film qui date de 2024 dans un village, donc vous voyez c'est très récent. Alors les éventails sont le principe même de la danse, hein. Leur déploiement. Ils sont peints de pivoines roses en fleurs. Et puis les danseuses sont vêtues de robes traditionnelles, ce qu'on appelle les hanbok. Et puis dans des motifs chorégraphiques très précis, elles utilisent des éventails pour figurer différentes choses. Des oiseaux, des fleurs, des papillons, des vagues. Alors c'est une danse parfaitement photogénique, puisque très souvent elle alterne en plus des moments de mouvement comme on les a là, et puis des moments un peu de pause, ce qui peut expliquer que nous en connaissions des images, peut-être en Occident, sans forcément en connaître les mouvements. Notamment, vous voyez là, les mouvements des costumes, qui sont toujours très importants dans les danses traditionnelles coréennes. Donc, la danse des éventails, comme premier exemple, je dirais, de ces différentes danses traditionnelles. Il y en a un très grand nombre. On peut penser aussi à la danse des pivoines, dont vous voyez une photographie en bas à gauche, qui est une danse en cortège dans les rues. C'est une déambulation qui précède un grand vase de pivoines. C'est une fleur très importante dans la culture coréenne puisqu'elle est symbole de richesse, de bonheur, de paix, de prospérité. Et c'est une danse qui est composée de deux groupes de femmes, danseuses en colonne, qui déambulent comme ça devant ce cortège, devant ce vase de pivoine. Là encore, en costume traditionnel. Ensuite, nous avons des formes qui utilisent plus peut-être un travail théâtral, on pourrait nommer ça comme ça, notamment le talchum, qui est un mélange de théâtre, de danse et de chant. Alors là, c'est un travail où les danseurs sont déguisés, soit en nobles, soit en concubines, soit en serviteurs, ou sous la forme de différents dieux. Et les danseurs comédiens traitent par la satire de la vie quotidienne du peuple coréen dans des danses qui sont très souvent masquées. Là, l'utilisation du masque est très présent. Enfin, le pungmul, qui incorpore des danses chamaniques. C'est une tradition musicale qui est très populaire, qui incorpore des percussions, de la danse, mais aussi du chant. Très souvent, danse, chant et musique sont associés. Et là, ce pungmul est plutôt dansé dans les fêtes liées aux activités agricoles. Donc, chaque fête peut être reliée à un type de danse particulière. Je continue quelques exemples. Celui-ci, on le connaît aussi, je pense, dans nos imaginaires occidentaux facilement, c'est la danse des épées, où l'accent est mis sur l'adéquation du mouvement du costume, notamment des manches, avec les mouvements du corps et le placement des lames, puisque comme son nom l'indique, c'est une danse où les danseuses sont munies de deux lames. Je vais vous en montrer un exemple. Là, c'est une prestation d'étudiante d'une école. Je vous laisse d'abord le découvrir un petit peu. l'utilisation des deux épées courtes rappelle les origines militaires de cette danse. Elle est considérée comme le 12e bien culturel important immatériel de la Corée. Et elle relie évidemment l'art de la danse à l'art martial. Nous avons aussi le salpuri, qui est la danse de la chasse au mauvais esprit, qui là encore est accompagnée de musique très codifiée et connectée au rituel chamanique. C'est une question que l'on va voir un peu plus tard dans la conférence. Et enfin, la danse de la grande paix, qui est une danse très importante en Corée, qui a pour but de souhaiter paix et prospérité au pays. Cette danse est pratiquée soit par un homme, soit par une femme, revêtant pour l'occasion l'habit traditionnel habituellement réservé à la famille royale. Là, je vais vous présenter un extrait qui va être un tout petit peu plus long de cette danse interprétée par Jae Park, qui est titulaire de cette danse, qui elle aussi est classée au 92e rang des biens immatériels de la Corée du Sud. Et c'est un extrait qui est issu, que je vais vous montrer, c'est un extrait d'une série produite par le Centre culturel coréen qui s'intitule « Artistes au palais » et qui met à l'honneur la musique, le chant et la danse. Et donc là, Jae Park va nous expliquer d'abord son cheminement dans sa pratique, dans son lien à cette danse, et puis ensuite on va la voir danser cette danse de la grande paix.
"춤사위도 기가 막혔고 그런 장단도 처음 들었어요. 한눈에 반해버렸죠. 중고등학교 때부터 무용을 해왔고 대학 때도 학교에서 가르치는 걸 충실하게 배웠어요. 그러다가 한영숙 선생님 공연을 보러 갔는데 그때 태평무를 처음 보고 충격을 받았어요. 그 공연이 제 무용 인생의 터닝 포인트가 된 거예요. 전통춤의 아름다움을 비로소 느낄 수 있었어요. 태평무는 경기 도당굿의 장단을 사용하고 있어요. 민속무용과 궁중무용의 미적 특성에 굿의 장단이 접목된 거죠. 다양하고 섬세하기 때문에 태평무를 보면 민속적인 흥, 신명, 그리고 궁중무적인 절제의 미, 우아함과 단아함을 다 느낄 수 있어요. 춤은 추는 게 아니라 추어지는 것이라고 생각해요. 마음에서부터 동해서 자신도 모르게 추어지는 것. 한성준 선생님은 일제강점기 시절에 풍년이 들어 백성이 배불리 먹고 독립이 되어 모두 안녕한 사회가 오면 얼마나 좋을까 그런 마음으로 태평무를 만드셨어요. 저도 춤을 출 때 그런 소망을 품고 있지요. 현재나 과거에 머물지 않고 미래를 향해 가는 춤. 나라의 안녕, 나아가 세계의 평화를 위한 춤. 언젠가 이곳 통명전에 머물렀던 왕비의 소망이 담긴 춤이에요.
Alors certainement, dans un premier temps, notre regard est happé par l'importance du costume, sa beauté aussi, et puis la délicatesse du mouvement, le glissement, le travail des pieds et des appuis très singuliers, en tout cas par rapport à la danse occidentale, certainement. Des appuis qui se passent souvent, vous l'avez remarqué, par le talon, et en même temps, on a une impression de glisser dans l'espace. Et puis, ce rapport aux couleurs, aux détails. Comment cette danse semble avoir une respiration singulière, finalement. Voilà. Je l'arrête ici. Et depuis quelques exemples que je vous donne, d'abord vous avez compris que cette danse coréenne traditionnelle est riche d'un grand nombre de danses, mais qu'elles ont pour beaucoup des liens avec les rites chamaniques, très présents dans ce pays. Le chamanisme en Corée est peut-être, on va dire, la croyance qui représente le plus, enfin en tout cas, la pratique religieuse, je dirais, la plus ancienne de Corée. J'ai lu différents articles à ce sujet que je connaissais peu. Dans un article, je lisais, je le cite, « En Corée du Sud, le chamanisme a la vie dure. Cette croyance représente tous les paradoxes qui animent la société coréenne moderne. Les Coréens ont envie d'aller de l'avant, de changer, mais ils refusent d'abandonner leurs traditions et leurs racines identitaires. Avouer que l'on croit au chamanisme est impensable. Pourtant, les chamans croulent sous les visites et sont sans cesse sollicités pour des rituels. » Donc ça montre peut-être le paradoxe que vit la société coréenne aujourd'hui. Ces croyances et pratiques d'ailleurs peuvent aujourd'hui complètement se combiner dans un syncrétisme avec d'autres religions comme le christianisme ou le protestantisme. Et d'ailleurs certains historiens soutiennent que les religions occidentales et le bouddhisme se sont implantés rapidement et durablement en Corée parce qu'ils ont été chamanisés quelque part. Donc il y a vraiment cette présence de cette pensée, de cette pratique chamaniste en Corée, et les chamans sont surtout des femmes que l'on appelle mudang. Il y a aussi quelques hommes nommés baksu. Alors les grands domaines de prédilection des chamans sont le soin, la chance, la prédiction de l'avenir, l'appel aux défunts, la préservation de la culture coréenne. Il s'agit d'être l'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des humains, et ça se concrétise par un ensemble de rituels qui est appelé gut. Il y a différents gut selon les régions, selon les chamans et selon les demandes. Au sein de ces différents gut sont présentes des transes qui mêlent musique et danse. C'est pour cela que dans le précédent extrait, la danseuse parlait de cette présence, de cet héritage du chamanisme. Alors je n'ai pas, et puis je ne souhaitais pas forcément présenter des vidéos de transe de ces rituels religieux. Par contre, j'ai trouvé en 2021 une exposition photographique au sujet de ces gut qui a été produite par le Centre culturel coréen de Pologne, qui regroupe un certain nombre d'artistes photographes ayant documenté ces guttes, notamment par des photographies en noir et blanc. Et j'en ai choisi un extrait pour que vous puissiez voir un petit peu en quelques images qui sont mêlées à des archives sonores. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, d'entendre cette musique des rituels. J'ai choisi le témoignage du photographe Seong Han, qui, alors ça va être sous-titré en anglais, mais j'en dis deux mots pour éviter de le traduire pendant. Alors il est parti à la quête des racines de la spiritualité coréenne dans différentes régions. Dans son idée, c'était d'archiver les gut avec son appareil photo et d'archiver les présences à la fois des chamans, mais aussi des personnes qui venaient pour le rituel. Il dit dans le court extrait qu'au départ, il se concentrait surtout sur archiver. Et puis finalement, il dit qu'il s'est senti touché par les événements qui se présentaient devant lui. Mais je laisse ces quelques photographies d'archives qui vont vous montrer en photographie arrêtée des moments de ces guttes, aussi bien dans des photographies de chamans que des populations qui sont présentes.
또 그런 문화적인 변별점을 또 찾아서 또 작업을 하기도 했었습니다. 한 명의 신이 아니라 수십 명 또 수백 명의 그런 신들이 찾아와서 이 굿을 하게 되는데 그 신의 역할들이 또 각각 다 다르더라고요. 가장 큰 힘을 가진 장군 신의 그런 힘을 하기 위한 그런 작두에 오르는 그런 모습들을 보면서 어떤 그 제의 절차의 절정을 볼 수가 있었고 제가 이 그 신과의 소통이라는 부분에 대해서 굉장히 많은 고민을 했었는데 어떤 문화적인 의미를 본다면은 그냥 겉핥기식으로 봤겠지만은 저도 어떻게 보면 종교적인 입장에서 그 입장을 바꾸기 시작하면서 신의 힘을 또 간접적으로 또 느끼는 과정이 있었습니다. 그래서 그 신은 사실 눈에 보이지는 않지만은 어떤 신이 와서 그런 하는 행위 또 그런 행위에서 느끼는 부분들을 마음속에서 또 마음이라고 그랬다 심장이나 머릿속에서 그런 뭔가 울림이 있더라고요. 그런 무당들이 하는 또 무당들과 또 일반 사람들과의 그런 연결고리를 보면서
Je l'arrête sur cette photographie où nous voyons aussi tout le rituel finalement les objets du rituel présents lors des guttes sans la couleur. Et c'est peut-être ça qui change beaucoup de la réalité, c'est que vous l'avez compris, ce sont des moments qui utilisent beaucoup la couleur, tant dans les offrandes, notamment alimentaires, mais aussi dans les vêtements. Alors vous allez me dire, pourquoi passer autant de temps, en ce début de conférence, autour de ces danses et de ces traditions? Vous allez peut-être le comprendre à partir du prochain, voilà, la prochaine image où j'ai choisi quelques portraits sur Internet de la chorégraphe qui va présenter son travail ce soir, Eun Mi Han. Et dès ses premiers portraits, vous ressentez chez elle à la fois le désir d'être en lien avec la tradition coréenne et simultanément celui d'être dans la société du 21e siècle. Elle est née en 1963 en République de Corée et elle commence la danse par une initiation aux danses traditionnelles et chamaniques. Dans une interview avec Phoebe Roberts pour le Brooklyn Rail, on lui pose la question « Comment avez-vous découvert la danse ?» Et voici ce qu'elle dit « Quand j'avais 5 ans, je jouais dans mon village. » À l'époque, en Corée, il n'y avait pas grand-chose pour s'amuser, alors je faisais tout ce que je pouvais. Courir partout, observer, rencontrer des gens, explorer. Un jour, j'ai découvert un autre monde, un groupe de personnes se tenait dans la rue, vêtues de couleurs magnifiques. J'étais émerveillée. Je me suis approchée, je leur ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elles ont souri et m'ont répondu « Oh, c'est de la danse !» C'étaient des danseurs en costume traditionnel coréen. Et je me suis exclamée « Oh, c'est tellement beau, je veux apprendre et faire partie de ce monde merveilleux. » Depuis ce jour, c'est mon rêve, colorer le monde à l'image de ces costumes. Pour cela, elle va étudier la danse et être diplômée à la fin des années 80 de Lee-Wai University, qui est une université pour femmes à Séoul. Elle va faire des études en danse qu'elle analyse comme très conservatrice dans la relation à la danse et à la musique. Et déjà, à la fin des années 80, la question des normes de la société l'interroge et elle tente de s'en détacher. Pour cela, elle va faire un acte fort, elle va se raser la tête. Elle explique dans cette même interview « Quand j'étais jeune, la Corée était très conservatrice quant à la façon dont une femme devait se comporter. On disait toujours que les filles devaient se marier jeunes, avoir les cheveux longs et être belles. Et je me disais « Pour qui ? Pourquoi ? Pour qu'un homme tombe amoureux de moi ? Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi je me suis coupé les cheveux. Dans la rue, tout le monde disait « Oh, regardez-la, la folle !» C'était inhabituel à l'époque de voir une femme le crâne rasé. C'était dans les années 80. Je me suis dit « D'accord, ce que je dois faire, ce que je veux, c'est être une femme forte, qui s'exprime haut et fort et qui dit ce qu'elle pense. » Quand j'ai commencé à chorégraphier, j'ai essayé de créer des personnages féminins très indépendants et courageux. Mais en chaque être humain coexistent deux pôles, deux personnalités distinctes, le féminin et le masculin. Nous sommes tous égaux. C'est pourquoi, même il y a 20 ans, lorsque je créais mes pièces, je n'habillais pas les danseurs en pantalon d'homme ou en robe de femme. Je ne faisais aucune distinction de genre, ni pour les costumes, ni pour les mouvements. Chaque danseur s'exprime naturellement différemment de par sa propre personnalité et individualité. En 1994, c'est le départ pour New York, où elle va être diplômée de la Tisch School of the Art, l'école où était passée une décennie plus tôt Anne-Theresa de Kersmaker, que nous avons croisée en début de saison au Quartz. Eun Mi-han va découvrir le New York des années 90, qui est très différent de la Corée des années 90. Une ville cosmopolite et dynamique pour tous les arts. Elle va y côtoyer, en Corée, elle avait côtoyé la Modern Dance de Martha Graham. Là, elle va ouvrir, elle va découvrir une multitude de possibilités artistiques et esthétiques. Elle va y développer ses propres conceptions de la danse et elle va, dans un premier temps, effectivement, chercher à créer des personnages féminins, forts, pouvant rappeler les femmes chamanes. Et je vous montre un extrait d'un solo de 95, c'est elle qui danse. Ce solo s'appelle Moon.